nous allons écouter le dernier levier de l'assolement par M. Garot. Je vais laisser Romain vous expliquer.
Du coup, maintenant, qu'est-ce que c'est un levier d'assolement ? C'est, on va dire, un conseil ou une aide qui peut servir à savoir adapter ses cultures en fonction du climat, en fonction des intempéries ou des menaces climatiques pour la culture. Et c'est tous ces conseils qui vont vous permettre d'améliorer votre rendement si vous cherchez le rendement ou la qualité et pouvoir adapter en fonction d'une sécheresse, par exemple, d'un excès de pluie sur vos cultures.
Donc, comment être autonome en alimentation ? Vaste question, vous allez me dire. Déjà, quel système sur mon exploitation demain ? Moi, j'ai vu déjà un premier levier, c'est l'assolement. L'assolement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accumulation de toutes les cultures, si tu veux. Donc, un assolement, c'est un enchaînement de cultures qui représente un système agricole. Donc, c'est ça. Donc, ça, il y a le levier assolement. Et forcément, donc, qui dit levier assolement, dit les espèces de cultures. Bien évidemment, vous allez me parler dans le secteur global d'ici, le maïs, la culture emblématique, la culture phare, le pur produit américain, voilà. Bon, ok, très bien. Mais moi, demain, quand je vous parle de maïs, le maïs, oui, mais le maïs quoi ? Quel type de maïs ? Il y a les maïs fourrages, il y a les maïs grains. Mais demain, si je conditionne mon système fourrager avec du maïs en silage et si je base mon système avec des maïs grains ou épis, on ne parle pas du même maïs, des mêmes indices de maïs et peut-être pas du tout de la résistance au stress hydrique. Actuellement, la génétique maïs grain, là, ça fait partie des évolutions. Hein. Je parle de la culture phare. Hein. Et demain, à l'heure actuelle, la génétique maïs grain nous donne une meilleure réponse en adéquation à l'eau. Ça, c'est prouvé par toutes les firmes américaines, françaises, les instituts. On sait bien que le génome du maïs, notamment ce qu'on appelle le cornet denté ou le denté pur, est plus résistant à l'eau. Parce qu'un produit qui vient des tropiques, adapté dans un système à l'eau, nous, on était sur une base de maïs type cornet, et bien le cornet, il sera beaucoup plus consommateur d'eau. Changement climatique, déficit hydrique. Derrière, est-ce qu'il faut qu'on continue nos maïs sans silage comme on l'a fait maintenant ? Dans vos systèmes, vous aurez sûrement du maïs. Et même demain, dans les systèmes les plus simplifiés, à part des irréductibles 100% herbes ou avec des cahiers des charges très spécifiques, à l'heure actuelle, on est tous en train de dire, tous les conseillers que j'entends dire, que ce soit de Lidl, comme ça, de conserver toujours un peu de fond de maïs. Eh ben, ce matin, l'agriculteur, moi, il m'a dit, si j'ai en bio, sur l'olive, si j'ai pas 2 hectares de maïs, je tiens pas. Je peux pas maintenir mon élevage. Ou difficilement. Parce que l'année dernière, au 25 mai, il calait en herbe. Il n'avait plus du tout assez pour des vaches qui produisaient 4200 litres. Ça reste une plante qui s'adapte en milieu sec, bien conduit au système. Donc, ne jamais l'exclure. Ne jamais l'exclure. Il fait partie du système, il faut le garder. Je ne dis pas qu'il faut en avoir à 90%, mais il fait partie du système. Non mais... Moi, je vous parle d'alternatives. Le tout, c'est à quelle proportion demain ? Le contexte climatique, j'ai largement de quoi vous emmener dans plein de fermes l'année dernière qui ont dû acheter entre 15 et 25 hectares de maïs. Comment ? Peut-être même dans vos familles ou dans vos maîtres de stage. Donc, le maïs, ok. Mais peut-être demain, moi, je mets plutôt un petit plus sur le maïs grain quand même. Et c'est quand même déjà une volonté des éleveurs. À l'heure actuelle, si vous prenez le maïs grain, pour gagner de l'amidon, reconcentration de l'énergie, moins de dépendance à l'étranger vis-à-vis de l'énergie, qu'est-ce que recherche un éleveur ? De l'énergie et de l'azote. Donc l'énergie, avec ce type de produit, on en a. Les associations de céréales et de protéagineux, à double fin. Métail dit grain. Plus simple. Plein d'avantages. Résistant au sec, moins de performance au niveau rendement, par contre une qualité de produit qui est nettement supérieure à plein de choses. Demain, là encore, un levier sur l'autonomie alimentaire, si vous voulez remplacer de la VL, typiquement ces produits-là, c'est hyper intéressant. Maintenant, dans ces types de produits, hein, il y en a plein, hein, les céréales, les triticales, les seigles, les épeautres, les avoines, les pois, les vestes, les févroles, les lupins, Toutes ces espèces vous parlent ?
Oui.
À l'heure actuelle, quelle culture, là-dedans, là, dans ce que je vous ai cité, a la capacité de remplacer du soja ? L'orge, non. Bon. On parle. Le lupin.
Ah oui.
Le lupin, ça fait combien de protéines ?
Bah, 48, ça
a remplacé ça. Ouais, 46. C'est équivalent, globalement équivalent sur du lupin. Donc cette culture-là, elle est en capacité, demain, de remplacer du soja extérieur. On parle d'autonomie. La févrole et la veste, pour l'instant, c'est sûr, je suis d'accord, le lupin, on ne peut pas le faire partout. C'est sensible. Globalement, dans les statistiques qui sortent depuis à peu près 5-10 ans, on sait qu'une année sur 5, on va le louper. Ce qui est très engageant pour une ferme. Mais je vous dis pas d'avoir que du lupin dans l'assolement. On en revient à ce fameux assolement. Mais demain, vous avez des pois, de la veste, de la févrole. Ces choses-là, on sait les faire. Et on sait les sécuriser tous les ans. Donc, pour vous dire que ces produits-là sont nécessaires, voilà. Une consommation en eau beaucoup plus faible, une gestion du salissement beaucoup plus importante. Petite anecdote. Vendredi, j'étais en séminaire à côté d'Angers. J'ai des gens qui font partie du GAB. Donc, du GAB, c'est un groupement d'agriculteurs biologiques dans le Maine-et-Loire. L'exploitant qui nous a reçus, 5 associés, vaches laitières, brune des Alpes, en bio, 30 vaches laitières, monotraite, tout en transformation. Bon, passons. Un peu de maïs, beaucoup d'herbes, forcément. Et derrière, des céréales à paille. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui nous ressort en céréales à paille ? Actuellement, ouais, critical. Actuellement, il est en train de travailler en France. Il y a 2 essais en France, comme ça.
Le blé aussi.
Ouais, mais il fait partie des blés. Actuellement, il cherche des blés quoi ? Résistants à tout. Désister. Il fait partie de ce qu'on appelle les semences paysannes. Il y a 2 essais en France sur les semences variétés paysannes qui ont la capacité de tenir. Il m'a sorti des noms que même moi, je ne connaissais pas. Par contre, il a été capable de me faire voir des blés durs, irakiens, iraniens, tunisiens, espagnols, italiens, suédois, norvégiens, 40 variétés différentes. Poulard. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du blé poulard ?
La mère
poulard. Oui, la mère poulard. Bah oui, c'est connecté à chez nous. Mais un blé poulard, c'est quoi ? C'est à peu près un blé qui a à peu près 100 ans, même plus de 100 ans, qui a une capacité de panification énorme. Par contre, c'est sûr, on ne lui demande pas de faire 100 quintaux. On lui demande de faire 25 quintaux. Par contre, lui, il m'a montré qu'il était capable de sortir entre 18 et 19 de protéines. Donc, demain, on parle d'autonomie alimentaire, on parle d'autonomie globale. Demain, ils sont capables de nous montrer, avec la génétique, la vieille génétique historique, qu'ils sont capables de sortir des produits de ce type de produits-là. Donc, il ne faut rien s'interdire. Et là, on parle de vraie génétique, on parle d'adaptation au climat. Si je vous dis que cet agriculteur-là, comme exemple, il sème des blés dans des prairies naturelles, c'était la première fois que je voyais personnellement, et pour vous dire que ça existe, c'est à 2 heures de route d'ici, 2 heures et quart, il sème des blés dans des prairies naturelles, qu'il récolte, il fait 25 quintaux. Son blé, il est en capacité de tenir face aux adventices, résister à l'eau, s'adapter et sortir une super qualité et un top qualité derrière. Et ce blé a la capacité de s'adapter. Non mais c'est juste pour vous. Non mais le but c'est pas de dire demain on fait tout ça. Mais par contre c'est juste que vous ayez en perception que il a déjà fait la transposition que vous posez même pas la question. C'est comment le blé est en capacité de gérer de l'adventiste, de l'eau, de l'engrais, globalement à peu près tout.
Parce que l'herbe ça pompe quand même beaucoup d'azote.
Ouais.
Mais
tu vois le problème c'est que le blé consomme beaucoup d'azote, l'herbe consomme beaucoup d'azote. Donc il te faut beaucoup d'azote pour faire ton blé à l'heure actuelle. Et moi, j'ai juste mis le curseur un petit peu plus faible, en disant je ne veux pas avoir 70-80 quintaux, j'en veux juste 25 à 30, voire 35. Par contre, je veux 7 ou 8 points de protéines de plus. Ça change tout. Et donc, typiquement, demain, eux, ça c'est un groupe d'agriculteurs qui se pose la question, comment demain, je m'adapte à faire du blé en conditions de séchant. Parce que chez ces gens-là, eux, ils travaillent à moins de 600 mm par an. Qu'est-ce qu'on a comme autre plante ? Est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas ? Ça vous parle ? Est-ce que c'est quoi ?
C'est pendant des bouffées.
Est-ce que demain, ça ne fait pas partie
C'est facile parce que ça aime bien la chaleur, ça résiste.
C'est ça. Ouais. Ça résiste à la chaleur, ça pousse quand même avec beaucoup moins d'eau qu'un maïs, on est d'accord. C'est quoi sa plus-value technique? Moi, alors, non, c'est pas protéique. Et c'est là toute en fait, l'importance, ouais, ça joue dans l'énergie. Mais l'hyper important, c'est que, c'est là où je veux en venir, c'est, là je vous présente un panel de produits de production végétale, d'essence végétale. Il faut les connaître pour demain concevoir sa ferme et pour donner à ses animaux, ou si vous n'avez pas d'animaux. Parce que il vous faudra peut-être un peu de tout ça pour demain arriver à produire. Le sorgho, moi je viens de Poitou-Charentes, il y a 25 ans ça existait, on n'en voyait pas, c'était réservé au sud de la France. Maintenant il y en a autant que du maïs en sorgho fourrage. On parle de plantes qui sont riches en sucre soluble. Sucre. Pour des vaches laitières, le top niveau. 20 points. 20 à 22 points de sucre. Un maïs, ça fait combien de points de sucre?
À peine 10.
Non, ça fait à peine 1. Donc, ce produit-là compense son faible taux de MAT par du sucre soluble, qui est pour les animaux bien meilleur, beaucoup plus digeste, et donc une stabilité de production. Donc pour des vaches laitières, à Saint-Martin-de-Landelle, il y a tout un groupe d'éleveurs qui a entamé ce processus de travail de recherche de génétique, de voir ce qui fonctionne ou pas par ici. Par contre, ce qu'ils voient tout de suite, c'est qu'il y a une réponse au niveau des vaches. Santé, sanitaire, au niveau des animaux. Et là, ils ne me disent pas, on ne veut pas le remplacer. Non, on veut juste réduire de peut-être de 2 ou 3% de notre surface maïs pour faire ce type de produit-là. Et quand on changera d'un silo de maïs avec de l'herbe et qu'on ira vers une transition vers un autre produit, on mettra 4-5 kilos par jour de ça et les vaches, elles garderont leur stabilité. Les tiers. Ça, c'est une adaptation technique, purement économique et en termes d'autonomie alimentaire. Voilà, riche en sucre. Donc ça, c'est hyper important. Couper un maïs, vous le coupez à cette hauteur, ça, un maïs en silage. À peu près sur cette hauteur-là, vous avez 95%, allez, entre 90 et 95% de quoi? De fibres non digestibles pour la vache et d'eau, que la vache n'a pas forcément besoin dans son rumen. Donc c'est juste de l'encombrement qui ne sert pas à grand-chose. C'est de la perte, hein. C'est comme si vous mettiez un tiers dans le moteur qui ne sert pas à grand chose. Mais vous l'avez payé, ou vous l'avez produit. Pareil. Alors que si vous récoltez un maïs à 90 cm et que vous allez ajouter ce type de produit, de l'herbe et des métailles et plein de ceci et de cela, vous allez avoir quelque chose qui se passe un petit peu mieux. Des espèces, autres fourragères qui peuvent être intéressantes. Le navet. Le chou fourrager.
C'est là qui donne des betteraves fourragères aussi.
De la betterave, exactement. Du colza, du sarrasin en silé. Demain, si je vous dis que c'est bon pour les vaches. Voilà, ça, c'est des vraies sources de diversification. Hein.
Mais ça leur apporterait quoi?
Comment? Bah, on parle d'autonomie fourragère. Quand on parle de colza fourrager, souvent les colza fourragers, on ne les fait pas en culture en pur. On les fait dans quoi? Les colza fourragers, on les fait quoi? Après une serre à la paille. On parle des dérobés. Donc, ces produits-là, hein, qui poussent bien dans le sec. Parce que l'heure actuelle, en gros, qu'est-ce qui pousse dans le sec l'été? Après les serres à la paille, dans notre région, là, dans notre secteur. Eh bien, ce sont les crucifères, les tournesols. Ces choses-là, on peut le donner aux animaux. Hein. Ça va pour les animaux. Que ce soit ovin, caprin. Clairement, là, vous avez des choses qui s'adaptent aux cultures. Je repense à tout à l'heure au pois chiche. Vous allez sur la côte, vous avez des gens qui font du pois chiche. De la lentille, du quinoa. C'est la protéine qui coûte la moins chère. On est tous d'accord dans le monde entier pour dire que c'est la protéine la moins chère. En France, les protéines végétales et la protection de légumineuses végétales a baissé de 20% en 4 ans. Alors que c'est des plantes qui résistent le mieux au sec. On le sait. On n'a pas d'appétence vers ces produits-là, mais pour autant, c'est ce qui fait que ça tient beaucoup de systèmes alimentaires, dont celui de l'être humain. Parce que physiologiquement, ça a beaucoup besoin de moins en eau, tout simplement. Alors c'est sûr, on va pas, On parle pas de gros potentiel de rendement, on parle de 2 tonnes, 3 tonnes. Mais si on en fait à surface suffisante, on arrivera à avoir suffisamment de protéines végétales. Qui consomme le plus d'eau à l'heure actuelle ?
Maïs.
Non.
L'humain.
Faux.
L'herbe.
Le régras. Le régras, c'est ce qui consomme le plus d'eau. Au printemps, c'est 3 mm par jour. Enfin, je sais pas si... Derrière, c'est compliqué de faire un maïs. Enfin, c'est juste logique, en fait. Vous considérez les 10, 15 premiers jours d'avril, fois 3 mm, ça nous fait 45 mm de pompée, quoi. Donc ça veut dire que c'est 45 mm en moins pour un maïs. Si tu trouves pas des palliatifs, c'est compliqué. Est-ce que ça vous parle, les céréales à double fin? Donc là, il y a le maïs grain, forcément, tout ça. Mais notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'on appelle les récoltes en immature de céréales en pur. Actuellement, de l'orge, de l'avoine, du triticale, du seigle, du blé, je peux vous assurer que, en termes de valeur énergétique pour des animaux, si vous le récoltez pour des jeunes bovins, par exemple, vous faites des rations exceptionnelles pour génisse et jeunes bovins, avec ce genre de produit-là. Vous allez récolter ça en juin, et on le sait depuis très longtemps, qu'on pouvait donner à des animaux. Donc là encore, tu peux réduire ta part de maïs, par exemple, ou ta part de sorgho, ou en avoir un petit peu pour tes animaux. Globalement, qu'est-ce qu'on fait derrière? Parce que ça, c'est des choses qu'on va sortir au mois de juin, donc qui peuvent nous permettre d'avoir une culture supplémentaire. L'aparté du changement climatique là, et de l'adaptation, vous devez vous plonger dans les comptas. Moi, c'est 120 à 130 clients. Je vais chez 120, entre 120 et 130 agriculteurs dans le Sud-Manche. Donc, c'est 120 à 130 comptabilités différentes. Je vois celles qui sont tendues par le système et celles qui ne sont pas tendues par le système. Que ce soit en bio et en conventionnel. Donc, une question de performance technique et économique et de lecture de technique. C'est-à-dire que je construis mon système pour qu'il soit performant économiquement. Et adapté, surtout. Adapté. Parce que se mettre 2 millions d'investissements demain dans un contexte climatique où on sait qu'on va prendre 1,5 degré d'ici 30 ans, il ne faut pas avoir peur d'aller développer toutes ces cultures-là, on va dire dites de printemps ou d'automne, type plus céréales. Mais un des gros leviers d'autonomie, c'est quand même la prairie. Hein. Et ça, c'est tout système confondu et tout secteur géographique confondu. Même si dans certains endroits, on ne la récolte pas pendant 3-4 mois, où on n'envoie pas les animaux dehors. Mais c'est quand même le système le plus palliatif, climatiquement parlant. Ça doit faire partie de l'ensemble des cultures que vous devez avoir. Maintenant, c'est à quelle proportion et à quel type. Donc, vous avez tout ce qui est, toutes les prairies d'associations graminées légumineuses. Demain, il ne faut s'exclure aucune culture. Donc ça, c'est des vraies adaptations techniques pour ces choses-là. De la prairie binaire, de la prairie 100% graminée, de la multi-espèce, pâturage, fauche. Là, il y a toutes les combinaisons possibles. Les luzernes 100% ou les trèfles violets 100%. On parle d'autonomie alimentaire, moins d'azote acheté, et puis surtout adaptation au climat. Le trèfle violet, il est intéressant de Saint-Hilaire à Mortain dans notre région. Tu vas de Saint-Hilaire à aller vers la côte, là, on change de discours. Par contre, la luzerne, elle est adaptée. Donc, il faut qu'on s'adapte en permanence. Quand on a un panel de cultures de ce type-là, il ne faut rien s'exclure, il faut essayer, il faut en faire, puis il faut caler ça pour les vaches. Jouer sur la précocité des prairies. Phénomène climatique, je reviens à toute première question. Avoir des prairies qui sont en capacité de sortir du fourrage tout de suite, là. Février, mars, avril. Et peut-être moins tenir l'été, mais par contre bien repousser en hiver. Ça, c'est un vrai choix technique pour des agriculteurs demain qui se disent, de toute façon, le réchauffement, il est là. L'été, ça va être très compliqué d'avoir quelque chose. Donc, ben, on joue des cartes variétales qui sont en capacité de nous produire du volume en sortie d'hiver et à l'automne. Et puis, ben, on essaye de bricoler une autre culture dans le milieu qui arrive à tenir l'été pour pouvoir nourrir, ben, soit faire du grain, soit faire du fourrage, de nouveau. Et ça, c'est plutôt l'aspect variétal. les variétés, le choix, enfin vraiment le choix variétal qui est prédominant là-dedans. Parce que de miser sur demain j'ai 90% de mon assolement avec du maïs et puis je prends une petite claque au printemps à l'été, je fais pas de rendement et j'ai pas de stock, et ben j'ai mis en péril toute l'exploitation. Alors que si je récolte des prairies au printemps, que je récolte des prairies à l'automne, que je récolte des dérobés d'été, que je récolte des dérobés de printemps, que je mixte avec d'autres cultures, ben voilà. On dit qu'il faut jamais mettre les œufs dans le même panier, tous les œufs dans le même panier. Ben c'est typiquement ça que ça veut dire.
Comme vous pouvez le constater, le changement climatique a un impact sur les cultures. Il faudra que les agriculteurs repensent leurs semences et diversifient leurs cultures.
Mais du coup, comme on n'est pas tous malheureusement calés en agriculture, et là on nous parle de davantage tourner les récoltes, de diversifier davantage les semences. Si on est sur une année plutôt sèche, vers quel type de plantes, vers quelles semences on pourrait se tourner pour qu'on s'assure qu'il y ait un rendement derrière ?
Pendant l'interview avec M. Garot, on avait évoqué le sorgho.
Alors le sorgho, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? C'est quoi ça ? Alors,
c'est une plante souvent qu'on prend en été, qui va plutôt ressembler au blé.
D'accord.
Et qui a une certaine résistance à la chaleur, ce qui ferait que l'effet de la chaleur ou de la sécheresse sur la culture n'aura pas le même impact que sur votre blé, s'il est planté. Elle résiste mieux, ce qui fait qu'on peut appeler ça une culture d'été.
Mm-hmm. Et si on était au contraire sur une saison très pluvieuse, enfin sur une année qui est plutôt pluvieuse, vers là, c'est quel type de plante qui serait intéressant ?
On n'a pas trop parlé de plantes au niveau des pluviométries élevées. Nous, c'était vraiment concentré sur la sécheresse due aux pertes qu'il y a eu.
Mmh.
Donc, on n'a pas trop évoqué. Et si je devais dire de mon point de vue, je n'ai pas trop d'idées, plus garder les cultures classiques.
Oui, en fait, là, ce serait plus...
Là, c'est vraiment concentré sur les cultures d'été. On était plus sur la hausse des températures et la baisse des pluviométries.
Mmh.
C'est pour ça qu'ils diversifient, c'est pour adapter leur culture et leurs semences à la hausse des températures, mais en contrepartie, du coup, il y a une baisse des pluviométries, ce qui fait que ça arrange pas les choses. Il y a moins d'eau et plus de chaleur.
D'accord. En clair, pour si jamais on a la chance d'avoir une année plutôt pluvieuse, ce serait de trouver des moyens de capturer l'eau pour éviter qu'elles inondent les récoltes et de répartir cette eau de façon plus équilibrée entre toutes les parcelles.
Et pas concentrer sur une parcelle et aussi faire des études et regarder quelle, justement, au contraire de la sécheresse, quelle semence on pourrait semer sur une période très pluvieuse. Chers auditeurs, cette émission sur l'autonomie alimentaire se termine.